Ça vaut une bud. Appréciez de manière responsable. 18 ans et plus.
Oui.
Wake up! And turn on the best morning show there is.
Boulevard Against le matin.
Hello!
Boulevard.
Calito!
102-1.
Le cadran vient de sonner à Boulevard 101 à 8h05 exactement. Pour ceux que le cadran a sonné plus tôt et qui sont sur la route, Max, je crois que ça mérite une mise à jour.
Ouais, accident sur la 20 direction est, ce qui fait que ça refoule à peu près jusqu'à l'autre bord de la route Lagueux. C'est vraiment pas beau ce matin pour s'en aller vers le secteur des ponts. Puis sinon, je vous dirais que l'accès directement à Pont de Québec et au Pont Pierre-Laporte, là, les deux directions nord, il y a des petits problèmes. Ça se règle tranquillement. Capital Ouest, même chose, là, tranquillement, pas vite. Ça s'améliore. Petit ralentissement quand même, toujours aux hauteurs laurentiennes. Ailleurs, je vous dirais que c'est de plus en plus beau. Reste peut-être vers Shannon, là, coin de la base militaire ou c'est au rouge.
On vient d'avoir une excellente entrevue avec Jean Gagnon, nouveau candidat dans Lac-Saint-Charles-Saint-Émile. Ça va se retrouver sur le BLVD.fm, une entrevue choc où le maire Bruno Marchand a vécu un mauvais quart d'heure.
Ah, Leadership Québec, pas Leadership Québec, Respect citoyen est passé au cash aussi.
Oui, Respect citoyen est passé au cash aussi. Et maintenant, on va aller rejoindre un député à l'Assemblée nationale, nouveau porte-parole en éducation de Québec solidaire. On aime beaucoup parler avec lui. On va parler entre autres de son nouveau rôle, mais aussi des jeunes en politique et surtout du Canadien de Montréal, parce qu'on sait que c'est un grand fan. Gabriel Nadeau-Dubois, comment vas-tu en cette belle matinée?
Ça va très bien, vous autres?
Ça va super bien. L'énergie est revenue au bercail avec cette période estivale?
Oui, ça faisait longtemps que je n'avais pas eu un été aussi relax.
Oui, c'est ça, aussi calme. C'est plus relax que quand on est chef de Québec solidaire et qu'il y a des tractations à l'interne, c'est ce que je comprends?
Tu comprends très bien. Donc, j'ai pris du temps avec la famille. On a fait quelques petits trips au Québec. Ça a été super agréable. Et puis, j'avais envie d'avoir une mission intéressante pour ma dernière année en politique. Moi, je commence ma dernière année en politique. Je ne me représenterai pas l'année prochaine. Donc, j'avais envie de me consacrer à quelque chose d'important pour moi et d'important aussi, je pense, pour le Québec. J'ai proposé à mon parti de m'occuper d'éducation. Je trouve ça bien important. Ils ont accepté. Alors, je vais essayer de protéger nos écoles contre les coupures qui s'en viennent, parce que ça m'inquiète beaucoup.
Comment ça fonctionne? Comment c'est à l'heure actuelle à l'interne à Québec solidaire dans votre caucus avec le fait que vous avez décidé justement de quitter la co-porte-parole du parti pour vous consacrer justement à votre rôle de député? Et
ouais,
vous venez de le dire, c'est votre dernière année en politique.
Oui, moi, c'est sûr que mon rôle, il est très différent. Avant, j'étais en position de leadership, j'étais impliqué dans chaque débat à l'interne. Bon, ça occasionnait toutes sortes de bouleversements. Maintenant, mon rôle est très différent. Moi, je vais quitter dans un an. Donc, je suis beaucoup moins au devant de la scène. Puis, je laisse la nouvelle direction du parti prendre la place, faire les débats. Je me tiens tranquille, puis je m'occupe de ce qui est important pour moi. Puis ça, c'est bien sûr ma famille, pour commencer, mais aussi l'éducation. C'est pour ça que je voulais cette responsabilité-là pour la dernière année, parce que c'est un peu comme ça que tout a commencé pour moi, hein, avec la mobilisation étudiante il y a bientôt 15 ans. Puis c'est encore quelque chose qui est très important pour moi, l'égalité des chances, hein, s'assurer que tous les petits Québécois, toutes les petites Québécoises aient le plus possible les mêmes chances de réussir dans la vie. Donc, de pouvoir me concentrer là-dessus pour la prochaine année, ça va me permettre de laisser les débats sur l'avenir de Québec solidaire aux gens qui vont continuer à s'impliquer.
Parlons-en d'éducation. À quel point l'état actuel des choses vous inquiète?
L'avenir m'inquiète beaucoup. On a un gouvernement qui, depuis sa première élection, nous avait beaucoup, beaucoup répété, hein, que l'éducation était sa priorité. Et c'est vrai qu'il y a eu des réinvestissements, notamment une augmentation du salaire des profs qui était une bonne chose. Mais là, l'état des finances publiques est plus difficile. Alors là, c'est un peu comme l'heure de vérité. Parce que quand les coffres sont pleins, c'est plus facile de réinvestir un peu partout, y compris en éducation. Et quand il y a moins d'argent dans les coffres, c'est là que le vrai test commence. C'est là qu'on voit vraiment où sont les priorités, parce que c'est là que les choix deviennent plus difficiles. On est passé très, très proche, il y a quelques semaines, d'avoir des coupures massives là, dans les services aux élèves. Là.
Oui, justement, par rapport à ça, sentez-vous que le gouvernement improvise avec son déficit de 13,5 milliards, improvise en éducation?
De toute évidence, ils ont sous-estimé la réaction qu'auraient les parents, qu'auraient les citoyens. Ils ont annoncé ces coupures-là au milieu du mois de juin. Je pense qu'ils espéraient... Ça prend pas un post-doctorat là, en sciences politiques pour comprendre que quand tu annonces quelque chose au milieu du mois de juin... C'est parce que tu espères que ça passe en douce, hein? Que personne s'en rende compte entre deux bières de la Saint-Jean.
Mais en même temps, ça a mis les directions d'école dans un embarras incroyable.
Exact. Mais là, les gens s'en sont rendus compte, ont réagi, les parents se sont mobilisés, les citoyens se sont mobilisés, et une chance, ça a fait en sorte que Bernard Drinville a dû remettre un peu d'argent, puis on pourrait discuter longtemps de ce réinvestissement-là. Là, c'est vraiment pas parfait, mais c'est vrai qu'on a évité le pire. Moi, ce qui m'inquiète, c'est le prochain budget, c'est dans 7 mois. Moi, j'ai peur qu'on ait des nouvelles coupures en éducation. Tout ça, ce que ça veut dire concrètement, c'est quoi, là? C'est des jeunes qui ont de la misère à apprendre à lire et à écrire, à qui on enlève leur spécialiste. C'est on ne peut pas se permettre ça dans un contexte où les taux de décrochage ont recommencé à augmenter depuis la pandémie. Je veux dire, on est, après tout, un pays... riche, même si tout le monde ne l'est pas. Il y a de l'argent au Québec. On peut pas se permettre d'en enlever dans nos écoles.
Hier, Bernard Drinville a partagé une mise à jour du fameux tableau de bord en éducation où il mentionne qu'il reste du travail à faire, mais que les résultats sont positifs. Donc, 98% des postes enseignants comblés, 93% des postes de personnel de soutien, 92% des postes professionnels qui sont comblés. Est-ce que pour Gabriel Nadeau-Dubois, c'est en effet positif, mais il reste du travail à faire, ou au contraire, d'y arriver limite de même à dernière minute, c'est pas super positif?
Ben, c'est mieux d'en manquer 1500 que d'en manquer 3000, mais il devrait pas en manquer pantoute. Donc, est-ce que c'est mieux qu'il y a quelques années? Bien sûr, les chiffres parlent d'eux-mêmes, mais on part de loin, là. Beaucoup des postes dans nos écoles, devant les classes, sont comblés par des gens qui sont non légalement qualifiés. On a lancé des formations plus rapides pour essayer de donner des brevets d'enseignement plus vite. C'est pas mauvais, mais encore une fois, hein, c'est des solutions à court terme. Le problème de fond, là, puis celui-là, on n'est pas encore capable de le régler, c'est quoi? C'est qu'il y a à peu près un enseignant sur 5 qui quitte la profession dans ses 5 premières années. Donc, c'est comme on remplit le panier, c'est pas mauvais, mais le panier, il est percé. Et tant qu'on s'assurera pas que cet exode-là des nouveaux profs cesse, ben on y arrivera jamais vraiment. Donc, est-ce qu'il y a une amélioration par rapport aux dernières rentrées scolaires qui étaient vraiment catastrophiques? Oui, mais il faut pas se laisser leurrer. Il y a le défi de la rétention de nos profs dans nos écoles, là, on n'a pas encore trouvé la manière de le relever.
Monsieur Nadeau-Dubois, je vous nomme ministre de l'Éducation demain matin. Quels sont vos deux changements majeurs que vous faites?
Ben moi, d'abord, j'entends une grande rénovation. En fait, non. Première chose, il faut réinvestir massivement pour ajouter des services aux élèves. On a augmenté le salaire des profs, c'était une bonne chose. Maintenant, la priorité, c'est les services aux élèves en difficulté. De plus en plus, des orthopédagogues, des orthophonistes, des éducateurs spécialisés quittent vers le privé parce qu'ils font plus d'argent. C'est pas normal, il faut rembaucher, améliorer leurs conditions, améliorer leur salaire. Ça, ce serait la première chose que je ferais. La deuxième, c'est de revoir le fonctionnement de notre système d'éducation. En gros, là, on a un système au Québec qui est un système à 3 vitesses, où on a le public régulier, le public avec des programmes particuliers et le privé où on sélectionne seulement les meilleurs étudiants. Ce système-là, il fonctionne pas. Moi, ce que je souhaiterais, c'est que tous les enfants aient accès à des programmes particuliers, que tous les enfants aient accès à la meilleure qualité d'éducation possible. Puis pour ça, il faut arrêter de trier les enfants, puis au contraire, il faut ouvrir des bonnes options motivantes à tout le monde.
Ça va pas super bien chez Québec solidaire quand on regarde les sondages. Puis bon, là, je sais que vous allez me dire que ça reste des sondages, puis que les vrais sondages, c'est les élections et tout ça, mais reste que les signes sont pas nécessairement très encourageants, alors que le Parti québécois va super bien, est en train de rassembler autant des souverainistes que des souverainistes, des jeunes et moins jeunes, alors que Québec solidaire a déjà été, du moins selon ma vision, le vrai parti des jeunes. C'est comme ça que je le voyais, là. pense qu'il y en a peut-être pas mal qui font le saut vers le Parti québécois. Comment on peut expliquer ça présentement, mais surtout comment, puis même si vous ne serez plus là à ce moment-là, mais comment lors de la prochaine campagne, Québec solidaire va pouvoir faire pour essayer de ramener du monde à la maison?
Moi, la prochaine campagne, je vais pas la faire. Je suis plus en position de leadership. Donc, moi, j'ai de confiance en Rubas, la nouvelle équipe qui dirige le parti, pour trouver des solutions à ça. Moi, j'ai confiance que les solutions existent. Mais maintenant, je veux laisser la place à la nouvelle porte-parole Rubas de s'exprimer sur ces questions-là. Puis moi, je vais me concentrer sur la mission que je me suis donnée dans la prochaine année. Puis cette mission-là est tellement importante pour moi depuis 15 ans maintenant, puis c'est l'éducation.
Mais vous devez quand même avoir un avis sur comment Québec solidaire peut faire pour amener des gens de leur bord.
Moi, j'ai un avis, puis j'ai été porte-parole de ce parti-là pendant plus de 8 ans. J'ai eu l'occasion de le dire à de nombreuses reprises. Mais moi, je veux pas... Vous comprenez? Moi, je m'en vais là, dans un an. Fait que mon travail aujourd'hui, c'est pas de relancer ces débats-là sur l'avenir du parti. Moi, je les laisse aux gens qui vont demeurer puis qui vont continuer. J'ai eu ma chance, comme on dit. J'ai fait ce que j'ai pu pendant 8 ans. Puis maintenant, je laisse la nouvelle direction du parti faire la stratégie pour la prochaine élection.
Qui va faire le meilleur co-porte-parole, Sol Zelinti ou Étienne Grandmont?
C'est deux super bons candidats, deux personnes que j'aime beaucoup. Moi, je veux pas m'impliquer dans cette course-là. Je pense que c'est pas mon rôle d'appuyer un ou l'autre des candidats. Mais je vois qu'il y a beaucoup de belles candidatures. Puis moi, tu sais, pour faire la boucle peut-être sur votre précédente question, moi, ce que je souhaite, c'est que ce débat-là, c'est que cette course-là soit l'occasion d'avoir des débats sur l'avenir du parti, comment le relancer. Ça, les tiennes ont des idées. Puis j'espère que ce débat-là va intéresser les membres du parti, puis qu'il y a des solutions qui vont émerger de ça.
Pour rappel, on parle avec Gabriel Nadeau-Dubois, député de Gouin et porte-parole du deuxième groupe d'opposition en matière d'éducation. Monsieur Nadeau-Dubois, vous avez 35 ans, vous l'avez dit, dernière année en politique, vous allez quitter la politique. La place des jeunes en politique, c'est-tu trop dur? T'sais, vous avez une jeune famille, est-ce qu'on laisse pas assez de place justement à les idées de la jeunesse et ça fait en sorte que quand on a une jeune famille, quand on a d'autres obligations, on fait « Ah, sais-tu quoi? La politique, ça ira quand j'ai 50 ans. »
Mais ma réponse, je pense, va être un peu nuancée parce que moi, je suis arrivé en politique en 2017. Et déjà, moi, je vois le progrès qu'on a fait depuis à peu près une dizaine d'années. Là. Moi, je me rappelle quand je suis entré en politique, le gouvernement était libéral. Il y avait au Parlement vraiment, puis bon, c'est pas pour juger la qualité des gens, mais il y avait une vieille garde. T'sais, il y avait des gens qui étaient là depuis très, très, très longtemps dans tous les partis. Et j'ai senti, moi, en arrivant en 2017, vraiment qu'on me regardait un peu de haut. C'est qui, lui, le petit jeune, là, qui arrive à 27 ans, puis qui pense qu'il va nous faire la leçon. Moi, je l'ai senti un peu, cette espèce d'âgisme-là. Puis parce qu'après ça, en 2018, il y a eu des élections, puis... Je connais pas le chiffre par cœur, mais tu sais, je pense qu'à peu près 75, si c'est pas 80% des députés ont changé, là. Donc, à ce moment-là, il y a toute une nouvelle génération qui est arrivée à l'Assemblée nationale, puis moi, j'ai vu une différence. L'Assemblée s'est beaucoup rajeunie. Bon, il y avait moi, mais il y avait d'autres collègues de Québec solidaire, de d'autres partis. Il y a eu Catherine Fournier au Parti québécois. Il y avait vraiment, bien, bon, même des gens comme Simon-Jolin Barrette, qu'on a à peu près le même âge.
Ah oui, exactement. 38 ans, M. Jolin Barrette.
Exact, qu'on a à peu près le même âge, il n'y a même pas 30 ans au Conseil des ministres, Mathieu Lacombe. Donc, il y a vraiment une nouvelle génération qui est arrivée, puis j'ai senti que les voix jeunes n'étaient plus écoutées. Et donc, il y a eu un progrès, c'est ça que je veux dire. Mais il en reste encore. Il en reste encore. Trop souvent, on a en tête une espèce d'image qu'un vrai politicien, ce serait comme une espèce de vieux sage, puis que quelqu'un de plus jeune n'a pas ce qu'il faut, puis ne mérite pas, tu sais, d'avoir voix au chapitre dans le débat démocratique. Parce qu'aujourd'hui, si on donne le droit de vote à tout le monde à 18 ans, c'est parce qu'on constate qu'à 18 ans, tout le monde a grosso modo une jugeote nécessaire pour participer au débat, puis faire valoir ses opinions. Puis ça devrait valoir aussi ça pour les élus. Fait que je pense qu'il reste du chemin à faire. Et la question de la conciliation travail-famille est un exemple de chemin, oui, qui reste à faire. Quand on a des jeunes enfants, que notre circonscription, comme c'est mon cas à moi, est à Montréal, et qu'il faut aller siéger à Québec presque toute la semaine, comment on fait avec deux bébés à la maison, là? C'est pas simple. Moi, c'est sûr que ça a fait partie des raisons pour lesquelles j'ai décidé de quitter la politique. C'est pas la seule, hein? mais ça en fait partie.
Vous dites quitter la politique, mais je pense qu'on est quand même plusieurs à penser que Gabriel Nadeau-Dubois va revenir en politique éventuellement, possiblement avec un parti qui aspire au pouvoir. Est-ce que ce sera le Parti québécois? Bon, on verra. Mais est-ce que vous fermez la porte à la politique ou il y a des chances qu'éventuellement, en effet, vous revenez quand les situations le permettront peut-être plus?
Moi, ça va faire 15 ans là, que je suis engagé presque à temps plein. Là. En fait, à temps plein, je vous le confirme, de toutes sortes de manières au Québec, dans des mouvements citoyens, dans le mouvement étudiant, ensuite à Québec solidaire. Donc, moi, je suis arrivé au bout d'un cycle. Là, maintenant, moi, j'ai 35 ans. Là. Faudrait que je manque beaucoup d'humilité pour vous dire aujourd'hui, moi là, j'ai 35 ans, puis je vous dis là, jamais, plus jamais en 100 ans. Je veux dire, non mais tu sais,
ça m'aurait surpris que vous fermiez la porte.
Ben, je pourrais le faire, mais ça serait pas sincère. Je veux dire, j'ai 35 ans. Où la vie va me mener dans 15, dans 20 ans, tu sais, je le sais pas. Mais ce que je sais, c'est que là, j'ai besoin de tourner la page. Les deux dernières années ont été, je vais vous le dire là, très difficiles pour moi. On verra pour la suite, mais tu sais, pas candidat ni aux prochaines élections municipales, ni aux prochaines élections au Québec, ni aux prochaines élections fédérales. T'sais, on me verra pas en politique pour un méchant bout.
Ouais, c'est drôle que vous parliez de municipal, parce que j'allais dire, là, je pense que Montréal a besoin d'un nouveau maire. Fait que peut-être vous pourrez réfléchir un jour. Parlant de Montréal, je veux absolument qu'on parle sûrement de la chose la plus sérieuse de cette entrevue avec vous ce matin, M. Nadeau-Dubois. Combien de buts Patrick Laine va marquer l'an prochain avec le Canadien de Montréal? Moi, j'ai prédit 18. Mon collègue Max Larouche voit un 37-38. On s'entend pas du tout. Aidez-nous avec cette situation tellement problématique.
Bon, mais d'abord, ça va dépendre de son état de santé. Je pense que ça, c'est l'inconnu. Hein? Donc, s'il est blessé, c'est peut-être toi qui vas gagner ton pari. S'il est en santé toute la saison, c'est peut-être ton collègue Max. Ça va dépendre de son état de santé. Ça va dépendre de son temps en avantage numérique. Parce que c'est un joueur qui marque. Il faudrait regarder le pourcentage de buts l'an dernier qu'il a fait en avantage numérique. Et certainement l'écrasante majorité. Donc, il va être sur la première vague, sur la deuxième vague. Je pense que ça va faire toute la différence pour ce qui est de son nombre de buts à la fin de la saison. Moi, je me situe, si tu me demandes une prédiction, peut-être quelque part entre vous deux, entre 20 et 25 buts.
OK. Ben 20, c'est plus proche de 18, fait que je suis content de vous entendre. Je vais pouvoir continuer à mettre de la pression sur mon collègue Max.
C'est qu'avant, c'était un peu comme le seul élément en avantage numérique, ou à peu près avec Caulfield. Il y a Demi Dove qui arrive, qui donne des options aussi. Donc, puis même
premier ou deuxième avantage numérique, Patrick Laine, parce que là, avec Demi Dove, c'est Caulfield sur le tir, sur réception, puis Laine, on envoie ça sur sa deuxième unité. Bon,
là, mon opinion, là. Moi, tant qu'à l'avoir dans l'équipe, là, parce qu'il représente quand même, notamment sur le plan défensif, par moment, un boulet pour l'équipe. Là. Donc, moi, je dirais, tant qu'à l'avoir pour l'équipe, tant qu'à l'avoir dans le line-up, aussi bien le faire contribuer sur ce qui est sa force principale. Bon, les mauvaises langues diraient sa seule force. Je trouve ça un peu sévère, mais sa force principale, c'est sa contribution en avantage numérique, c'est son tir sur réception. Si tu maximises pas cet apport-là qu'il a dans ton équipe, qu'est-ce qu'il fait là? Donc, moi, mon réflexe, ce serait de le faire jouer sur le premier avantage numérique pour aller presser le citron, aller chercher le plus de buts possible. Parce que sinon, je sais pas trop pourquoi on le garderait dans l'alignement. Là.
Mais à ce moment-là,
les derniers 30 secondes du deuxième avantage numérique, est-ce que vraiment ça justifie sa place dans le line-up? Je suis pas certain de ça.
Fait qu'à ce moment-là, on enlève qui du premier avantage numérique? Slavkovski, Demidov, Caulfield? On s'entend Suzuki, Hudson, ça reste là?
Oui. T'sais, est-ce que Demidov, je veux dire, moi, d'ailleurs, j'étais au Centre Bell pour son premier match dans la Ligue nationale. Je vais m'en rappeler toute ma vie. Je partage l'excitation de tout le monde. Il a quand même pas encore joué, même pas un quart de saison dans la Ligue nationale. T'sais. Il va y avoir quand même une période d'adaptation. Est-ce qu'il doit faire tous les premiers avantages numériques? Je pose la question. Peut-être qu'on peut commencer par liner pour intégrer progressivement Demidov, puis ensuite c'est vrai qu'il va avoir des choix difficiles à faire.
En terminant, en tant que partisan du Canadien, est-ce que vous voyez le Canadien de Montréal en série et même gagner une ronde, et est-ce que vous êtes excité par les arrivées de Zachary Bolduc et Noah Dobson au sein de la Sainte-Flanelle?
Bon, c'est beaucoup de questions. Oui, très excité des nouvelles arrivées. Franchement, c'est assez impressionnant à quel point Kent Hughes et Jeff Gorton ont réussi à acquérir la confiance des partisans. Moi, j'ai 35 ans. C'est la première fois que je sens que j'ai vraiment confiance dans la direction de l'équipe. On sent qu'il y a un plan. On sent qu'ils savent où ils s'en vont. Ça ne veut pas dire qu'on est toujours d'accord sur chaque petite décision, mais je sens que la base de partisans, grosso modo, a confiance dans cette direction-là. Puis c'est le fun. Ça donne confiance en l'avenir. Fait que c'est deux arrivées qui sont intéressantes, surtout celle de Dobson qui, franchement, fait progresser l'équipe, fait prendre une grosse coche à l'équipe là, sur le plan défensif. Bolduc, ben, c'est un peu un joker, comme on dit. Est-ce qu'il va lui aussi finir par se tailler une place sur l'avantage numérique?
Ouais, moi, je l'adorais à Québec avec les Remparts.
Oui, c'est vrai, vous l'avez vu de près, vous autres, à Québec.
Oui, je l'ai vu évoluer de très, très près. Je peux vous dire une chose, le Canadien est en voiture avec un marqueur naturel comme ça.
Exact. Tout le monde parle de son tir et tout. Donc, est-ce qu'il va nous faire une quinzaine, une vingtaine de buts? On va peut-être plus, on verra. Fait que tout ça est très excitant. Est-ce que ça va donner une place en série? Moi, je pense que oui. Je veux dire, sur papier, c'est une équipe clairement améliorée par rapport à l'an dernier. En tout cas, ça fait pas de doute. Peut-être que le poste de deuxième centre, c'est, je suis pas original en disant ça, mais ça reste un des points d'interrogation. Puis il y a le bas de l'alignement aussi, là. Tu sais, les gens ont aimé détester Armia, Dvorak et compagnie pendant longtemps, mais c'était quand même des joueurs qui sécurisaient le bas de l'alignement, qui prenaient des grosses minutes en désavantage numérique, en territoire défensif. C'est quand même des morceaux à remplacer. Donc, globalement, l'équipe est améliorée, mais il va falloir que, sur les deux derniers trios, il n'y ait pas seulement des jeunes, mais aussi des gars qui ont de l'expérience et qui sont capables de jouer les matchs plates là, au milieu du mois de novembre. Donc, à surveiller. Mais oui, une place en série, j'y crois. Moi, j'y crois. C'est une équipe améliorée. Gagner une ronde, bien sûr, ça va dépendre de qui on affronte. Ça, c'est sûr.
Ouais, exactement.
Je pense qu'il reste du chemin à faire. Puis, je pense que, comme partisan, moi, je ne m'attends pas à ce qu'à chaque année, on franchisse, on fasse quatre bons en avant. Là. C'est si l'équipe est globalement sur une trajectoire d'amélioration.
Ça vous satisfait?
Qu'on sent que la reconstruction avance. Moi, se qualifier en série, faire une belle ronde, je ne vais pas dire que c'est un échec. Au contraire, moi, je vais dire, hey, c'est bon, on est en train d'avancer. Honnêtement, l'an dernier, là, la participation aux séries éliminatoires, là, c'était un peu une frise sur le Sunday, là.
En effet, vous avez entièrement raison. Et en attendant, justement, comme mon collègue Max Larouche se plaît à le dire, votre arrivée au PQ en 2030, pour quel média vous allez travailler? Un média sportif comme TVA Sport ou un média d'analyse politique?
Je m'en vais pas au PQ, je vous dis tout de suite. Deuxièmement, un média sportif, j'aime beaucoup le sport. J'ai aimé être interviewé ici et là dans les dernières années pour parler de sport. Moi, j'ai pas de job à partir du mois d'octobre l'an prochain. Fait que je suis ouvert à des propositions. Et puis, tant que c'est conciliable avec ma vie de famille, je suis parlable, comme on dit.
Magnifique, on en prend bonne note. Merci beaucoup, M. Nadeau-Dubois, pour votre temps ce matin. On a apprécié cette entrevue. Merci pour vos années que vous avez données en politique, même si je sais que ce ne sera pas terminé, que vous allez revenir.
On verra ça. Merci.
Salut.
Merci. Salut. Bonne fin de journée. C'était Gabriel Nadeau-Dubois, député de Gouin pour Québec solidaire et porte-parole en matière d'éducation qui était avec nous. On a fait un grand tour. Moi, ce que je vais retenir de la première mouture en carrière politique de Gabriel Nadeau-Dubois, je viens première parce qu'il va en avoir une deuxième, c'est certain, c'est qu'il est très respecté de ses adversaires politiques parce qu'il arrivait très préparé avec ses dossiers.
Ouais, puis tu sais, on a reçu des textos de gens qui disent « Moi, Québec solidaire, je trouve pas ça sérieux, mais un Gabriel Nadeau-Dubois dans un autre parti... Ouais. » Mais le lien avec le PQ, évidemment, se fait, là, je pense que...
Plus de centre-gauche. Je pense que Gabriel Nadeau-Dubois s'est jamais caché qu'il était souverainiste.
Non, puis tu sais, il y en a chez Québec solidaire que je doute là, de leur amour pour le Québec-Pays. Gabriel Nadeau-Dubois n'est pas dans cette catégorie-là. Je pense que c'est un vrai de vrai souverainiste. Je pense que PQ 2030 pour Gabriel Nadeau-Dubois, là, ça s'enligne pas
ça
mal.
Ça sent bon pour ça. En attendant, mais il est ouvert à des propositions dans les médias. Fait qu'on va aller voir les patrons. Il pourrait faire un bon chroniqueur politique boulevard.
Ben absolument.
Nous amener...
Ou sportif, on verra.
Ou sportif, mais t'sais, nous amener à un angle différent. T'sais, nous, on est un peu plus poussé vers l'économie, un petit peu plus poussé vers la droite ici, centre-droit, comme se plaît à dire Yannick Marceau. Fait que ça pourrait être bon.
Ouais.
On pourrait être challengé de parler avec Gabriel Nadeau-Dubois.
Moi, je l'ai pas bien challengé sur le sport, parce que j'étais quand même d'accord avec ce qu'il disait. Bon, il y a l'ANA qui
je
voit.
Sais, je te
mais,
voyais dans tes
mais
yeux.
Moi, surtout, moi j'ai toujours crié pour la justice, là, Dvorak, Armia. Là. C'est vrai que
c'est
deux...
Vrai.
Moi, j'ai j'ai toujours été un ardent défenseur de
Yolarvia quand tu le faisais.
Puis Dvorak, mais c'est vrai que cette année, ça pourrait faire mal au CH, ouais, ce petit manque de profondeur-là. Fait que quand il a dit ça, là, c'est peut-être qu'il ne se représente pas. J'aurais peut-être voté QS à cause de ça.
Max Larouche, je t'adore avec tes opinions tranchantes. On s'en va en musique avec Red Hot Chili Peppers, Scar Tissue sur Boulevard 102.1. Et par la suite, c'est Claude Villeneuve qui vient s'installer en studio. On a plein de questions pour vous, pour lui. Notamment, est-ce qu'il a vraiment proposé un référendum sur le tramway Samamad et Stéphane Lachance? On suit ça après Red Hot Chili Peppers.